do you see what you done done? You have made me love you, now your man done come. My home is on the water, I don't like no land at all. Home's on the water, and I don't like no land at all. My home's on the water, and I don't like no land at all. I'd rather be dead than to stay here and be your dog. So you see, rider, see what you done done. See, rider, you see what you done done. You see, rider, you see what you done done. You have made me love you, and now your man done come. I love you, baby, but I hate your little dirty way. Love you, baby, but I hate your dirty way. You know I love you, baby, but I hate your dirty way. When I leave you this time, gal, I'm going away to stay. So you see, rider, see what you done done. See, rider, you see what you done done. You see, rider, you see what you done done. You have made me love you, and now your man done come.
C'est tous les dimanches à 4h49 et 6h48 TU sur RFI.
Il est 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI matin.
Le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
Jour de fête et jour de deuil au Moyen-Orient.
C'est à la fois l'Aïd et Nowruz, aujourd'hui la fin du Ramadan et le Nouvel An perse, célébré en toute retenue. Dans ce contexte de guerre, de nouvelles frappes cette nuit ont eu lieu à Téhéran, mais aussi dans plusieurs villes du sud du Liban. Et ce alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est montré très offensif hier devant la presse internationale. Nous appellerons Michel Paul à Jérusalem dans un instant. Nous serons aussi en Cisjordanie occupée, victime collatérale du conflit. 4 femmes sont mortes dans cette guerre qui n'est pas la leur lors de bombardements israéliens. Reportage d'Alice Moreno. Au Bénin, le chef d'état-major des armées françaises répond à l'AES et précisément au chef de l'état nigérien Abdulrahman Tiani. Et puis enfin en France, la France insoumise espère confirmer sa percée aux élections municipales et la Réunion en émoi avec cette coulée de lave historique. C'est très joli mais c'est très dangereux aussi, vous l'entendrez.
C'est une guerre en passe d'être gagnée, se félicite Benjamin Netanyahou.
Pour qui l'Iran est en passe d'être décimé. Le Premier ministre israélien tenait hier une conférence de presse au 20e jour de la guerre au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou qui ne s'interdit plus une intervention terrestre pour provoquer une chute du régime iranien. Et on retrouvera à Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Michel, malgré des divergences tactiques affichées avec Donald Trump, le Premier ministre israélien passe à l'action.
Oui, c'est un Benjamin Netanyahou offensif qui s'est présenté devant la presse internationale. Pour lui, le point de non-retour est franchi. L'appareil de production militaire iranien est désormais paralysé. L'objectif affiché ne se limite plus à détruire les stocks de munitions, mais bien à raser les usines pour empêcher toute reconstruction.
Après 20 jours, je peux vous l'annoncer, l'Iran n'a plus aujourd'hui la capacité d'enrichir de l'uranium ni de produire des missiles balistiques. Nous continuons à briser ces capacités, nous les broierons jusqu'à la poussière.
Et au-delà des infrastructures, Israël décapite le commandement iranien. Nous veillons à ce que les tours de garde des gardiens de la révolution soient très courts, a ironisé le Premier ministre, mais la véritable rupture stratégique, c'est l'évocation d'un volet terrestre. Pour Netanyahou, On ne renverse pas un régime uniquement par les airs. Il faut une présence au sol pour accompagner un soulèvement populaire. Sur le plan diplomatique, il balaie les critiques. Non, Israël n'a pas piégé Donald Trump dans ce conflit. Si l'État hébreu a frappé seul les complexes gaziers contre l'avis de Washington, Netanyahou martèle que les intérêts américains et israéliens sont identiques. Et sur la durée du conflit, Netanyahou se montre bivalent. En hébreu, il dit que cela prendra le temps qu'il faudra. Mais en anglais, il affirme croire que la guerre se terminera beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
Merci beaucoup Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. Nous le disions en titre, ce vendredi est un jour de fête dans tout le Moyen-Orient. On évoque ce matin dans nos différentes éditions la fin du Ramadan, c'est l'Aïd aujourd'hui pour les musulmans de la région. Une fête marquée par la guerre, notamment au Liban où plus d'un million de déplacés s'approvisionnent comme ils le peuvent. Coïncidence du calendrier, c'est aussi aujourd'hui Nowruz, le nouvel an perse, une tradition qui marque d'ordinaire la sortie de l'hiver, le passage au printemps. Mais cette année, les Iraniens n'ont pas vraiment le cœur à la fête, comme a pu le constater dans les rues de Téhéran, notre correspondant Siavosh Ghazi.
Dans le petit bazar de Téhéran, dans le nord de la capitale, la situation n'est pas la même que les années précédentes. Les clients sont peu nombreux, mais ceux qui sont venus faire de petites courses malgré la guerre veulent rester optimistes. C'est le cas de Marsa et de sa mère Farideh, venue acheter des fleurs pour le nouvel an iranien.
Mon sentiment est que malgré tous les événements terribles et tristes que nous vivons, on essaie de garder espoir. Il se dit que lorsque l'on commence une année dans tel ou tel état d'esprit, le reste de l'année sera pareil. Alors j'espère qu'on recevra de bonnes ondes si nous commençons la nouvelle année de manière positive.
Pour moi aussi c'est pareil. Bien que j'ai beaucoup de tristesse, que je me sente mal et que la situation cette année soit très mauvaise, nous avons perdu nos êtres chers. Nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer. Nous devons garder espoir. Nous ne pouvons rien faire de plus. Je suis revenue d'Allemagne il y a un an. Beaucoup me demandent pourquoi je suis revenue. Est-ce que je ne regrette pas? Mais malgré tout, je pense que ça vaut la peine d'être en Iran, de vivre le Nowruz en Iran. Vraiment.
Beaucoup espèrent la fin prochaine de la guerre, une situation instable et une vie normale, mais on craint également une dégradation de la situation. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Téhéran par ailleurs touché cette nuit par des frappes israéliennes et l'Iran qui a de nouveau visé plusieurs pays du Golfe cette nuit. Les Émirats Arabes Unis ont par ailleurs indiqué avoir arrêté au moins 5 personnes, 5 membres d'un réseau terroriste présenté comme lié à l'Iran et au Hezbollah selon des médias locaux. Une guerre qui continue de s'étendre et qui a fait de premières victimes en Cisjordanie occupée, 4 morts dans une guerre qui n'est pas la leur. Voilà ce que déplorent les Palestiniens du village de Beit Awa près d'Hébron. Sans avertissement, l'explosion a soufflé un petit salon de beauté. 4 femmes ont été tuées par des débris dans cette frappe israélienne. Les habitants de cette localité palestinienne se sont rassemblés pour leurs funérailles hier et pour dénoncer cette violence qu'ils subissent. Alice Moreno s'est rendue sur place.
Dans une petite pièce, des dizaines de femmes se recueillent vêtues de voiles sombres. L'une d'entre elles, le regard vide, récite inlassablement des prières pour sa fille, tuée la veille par des éclats d'obus. Un débris de missile a laissé un trou dans le sol à seulement 5 mètres du petit salon de beauté où se trouvaient des jeunes femmes du village. Abdelrazek, un voisin, a découvert les corps des victimes.
On a entendu l'explosion, c'était très près de chez moi. J'ai entendu des cris de femmes, j'ai accouru. Il y avait tout ce sang et ces morceaux de cervelle. Là, on a nettoyé.
4 femmes ont été tuées par les éclats qui ont traversé les murs. Un autre habitant, Ibrahim, a ramassé un petit fragment de missile qu'il brandit dans sa main.
Quand le missile est tombé, ça a fait des dégâts sur 200 mètres. Vous voyez là-bas, c'est le mur de séparation. Les Israéliens les ont placés tout près des plateformes d'interception de missiles. Nous sommes entre le marteau et l'enclume.
Comme lui, beaucoup de Palestiniens de Beit Awa veulent faire passer un message. Cette guerre contre l'Iran n'est pas la leur, c'est celle d'Israël. À Beit Awa, Alice Moreno, RFI.
La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences économiques, on y reviendra dans le prochain journal à 7h temps universel. Une guerre qui coûte 2 milliards de dollars par jour aux États-Unis. Washington qui affirme qu'il pourrait alléger certaines sanctions sur le pétrole iranien pour tenter de contenir la flambée des prix. Les États-Unis qui ont demandé à Israël de ne plus frapper les infrastructures énergétiques iraniennes. Alors qu'hier, 6 pays se sont dit prêts à contribuer à encadrer la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et ce alors que l'Organisation maritime internationale a appelé à la création d'un corridor maritime. Le prix du pétrole a reculé ce matin de plus plus de 2%, autour de $105 le baril de Brent, après avoir bondi à $120 la veille. On en reparle juste après le journal avec la chercheuse Anne-Sophie Corbeau qui sera votre invitée, Clotilde Dumay.
En attendant, il est 7h07 à Paris comme à Cotonou, où le chef d'état-major béninois, ivoirien et français avait rendez-vous hier ce jeudi.
Et le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, s'est confié à RFI. Il est notamment revenu sur les accusations répétées des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, en particulier celle du général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au Niger, qui affirme de longue date que le Bénin abrite des bases militaires françaises destinées à déstabiliser son régime. Le chef de l'État nigérien est même allé plus loin en désignant directement les chefs d'État Patrice Talon, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron d'avoir commandité l'attaque de l'aéroport de Niamey à la fin du mois de janvier. Allégation balayée par le général Fabien Mandon.
Non, la France est là ponctuellement. Aux côtés des armées béninoises, il n'y a pas de camp français dans la région. Ça, c'est quelque chose qu'anime certains. Et je vois que les pays de l'AES répandent de fausses informations. Ils essayent de faire croire que tout va mieux alors que tout va mal. La situation ne fait qu'empirer. Et c'est beaucoup plus facile de faire penser que c'est la faute de pays voisins, de pays étrangers. La France peut être un bon argument pour expliquer que ça ne va pas. La réalité, c'est que ces pays-là ne font qu'enfoncer leurs citoyens dans plus de crises, plus de difficultés économiques, et ça se voit. Il y a malheureusement des attaques terroristes, des blocus d'une capitale qui ne reçoit plus de pétrole pendant des semaines. C'est ça la réalité de l'Alliance des États du Sahel. Les pays sont souverains. La France est très attachée à ça. Le Niger a fait ses choix. Le Mali fait ses choix. Le Burkina Faso fera ses choix. C'est à la population de choisir son destin. La France n'intervient pas dans les affaires de ces pays et n'a aucune intention d'intervenir dans ces pays. En revanche, nous observons ce qui arrive dans ces pays et c'est préoccupant. J'espère que cette situation va s'améliorer.
Des propos recueillis au micro RFI de Jean-Luc Aplogan.
En France, le sprint final avant les municipales.
Le deuxième tour, c'est dimanche et l'union des droites ne se fera pas à part dans quatre localités. L'union des gauches, elle est contrariée. Elle aura lieu notamment à Grenoble, à Limoges ou encore à Toulouse. Mais il y a une ville où la gauche s'unit contre la gauche, c'est à Lille, dans le nord de la France, où socialistes et écologistes fusionnent face à la liste de la France insoumise. Lille où Jean-Luc Mélenchon s'est rendu hier et pour le leader insoumis, ces municipales sont déjà un vrai succès. Meeting auquel a assisté Aurélien Devernois.
Des sourires, beaucoup de sourires dans la foule qui se presse pour venir assister à l'ultime meeting insoumis de ces municipales lilloises. Car même si la victoire n'est pas au bout pour Sacha...
Moi, à mon sens, la stratégie, la manière de faire de LFI est la bonne.
Monsieur Jean-Luc Mélenchon !
Sur scène, Jean-Luc Mélenchon fait le bilan.
Pour la première fois, nous progressons plus vite que le Rassemblement national.
Et se félicite également d'un succès stratégique en misant sur la jeunesse et les quartiers populaires.
Cette stratégie vient d'être couronnée du succès qui lui a apporté le plus.
Même si parfois l'amertume pointe dans l'Assemblée à l'image de Marie-Christine.
Certaines parties de la gauche, en particulier les écolos, malheureusement à Lille, ici, n'ont pas été rendez-vous.
Des divisions qui peuvent coûter cher, selon Jean-Luc Mélenchon, comme à Marseille, où l'extrême droite menace et où le maire d'hiver gauche Benoît Payan a refusé de fusionner avec la liste insoumise.
Cet arrogant décide qu'il ne parle à personne alors qu'il est menacé, que nous sommes tous menacés par une victoire de l'extrême droite.
Les alliances arrachées à gauche, comme à Toulouse, ne suffiront peut-être pas non plus, mais Jean-Luc Mélenchon se projette déjà au-delà.
En 2027, nous allons recréer le grand parti, le grand mouvement.
Un grand parti pour éviter de dépendre du reste de la gauche et accomplir enfin le rêve de Jean-Luc Mélenchon, conquérir l'Élysée. Aurélien Devernois, Lille, RFI.
Une union de la gauche qui n'aura pas lieu non plus à Paris, où la candidate insoumise Sophia Chikirou se maintient au second tour face au socialiste Emmanuel Grégoire.
Et puis la température va encore monter d'un cran, Martin. On va à la Réunion, où éruption rime avec excitation.
Et presque avec ébullition, Clotilde, des visiteurs surexcités par cette coulée de lave que l'on suit presque en direct ces dernières semaines sur RFI. C'est une première depuis 19 ans, une cascade de feu qui coule jusque dans l'océan. De quoi créer la plus jeune plage du monde et de quoi griller ses merguez, mais attention aux excès, reportage de Lola Fourmi.
Dans la forêt, en pleine nuit, sur le sentier barré d'un panneau danger mortel, des dizaines de personnes cheminent sur un sol glissant, jusqu'à la falaise, et cette scène surréaliste.
Mais c'est un truc de ouf, oh là là, waouh.
Sous nos yeux, une cascade de lave se mélange aux flots de l'océan.
On dirait que là, l'eau est en train de brûler.
scène magique pour Romain, réunionnais de 40 ans.
Je ressens beaucoup d'émotion, beaucoup de chance d'avoir ce spectacle sur une petite île comme la Réunion. Cette admiration face à la nature, le sentiment que tout ça c'est bien plus grand que nous. C'est une prise de risque, effectivement, mais c'est un spectacle qu'on voulait pas louper.
Malgré tout, certains comportements dangereux sont observés, comme se balader en tongs, sans eau ni lampe frontale. D'autres font même cuire des merguez dans la lave à 1100 degrés. Alors pour Alain, passionné du volcan, masque à gaz en main, il ne faut pas interdire, mais plutôt encadrer.
Je pense par exemple à un accompagnement avec des professionnels de la montagne, notamment, qui connaissent très bien le lieu et qui pourraient très bien gérer un flux très important de personnes.
Le principal risque reste l'inhalation de fumée toxique. Pour l'heure, pas d'intoxication signalée, mais 10 personnes égarées dans la zone ont déjà dû être secourues par le PGHM. Lola Fourmi, La Réunion, RFI.
Et voilà, faites attention tout de même lors de vos barbecues à Saint-Denis de La Réunion. Il est 10h13, c'est l'heure du petit déjeuner avec Clotilde Dumais.
Oui, à Paris, il est 7h13, on attend encore le premier barbecue de la saison. En attendant, dans quelques minutes, notre invité international, mais d'abord les sports. Avec vous Antoine Grenier en football, rude soirée pour les clubs français, Lille et Lyon, éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
L'OL pensait pourtant avoir fait le plus dur, après être allé arracher le nul un partout face au Celta Vigo à l'aller, mais miné par la rapide expulsion de leur défenseur central, le Sénégalais Moussa Niarate. Les Gones ont plié à domicile, défaite 2-0 et élimination, soit le même sort que Lille. À Birmingham, le club nordiste a cédé deux fois après la mi-temps face à Aston Villa, d'où l'amertume du capitaine Lille. Olivier Giroud, recueilli par Canal+.
J'aurais aimé qu'on marque ce but pour les faire douter. Et à l'inverse, ils ont réussi à marquer sur un ballon de leur gardien. Donc ouais, c'est frustrant. Mais malgré la défaite, on les a bougés et on a joué notre jeu. On voulait vraiment passer, vivre encore l'expérience un peu plus loin pour nos supporters qui étaient venus en nombre encore aujourd'hui. Mais dans le contenu, force est de constater qu'il y a beaucoup de bonnes choses. On va s'appuyer là-dessus. Je suis déçu, mais voilà, je suis fier quand même des mecs parce qu'on a montré un beau visage ce soir.
Des huitièmes de finale de Ligue Europa qui ont vu les qualifications de Bologne, Fribourg, Nottingham, le FC Porto et donc le Betis Séville.
Pour voir un club français sourire, il fallait finalement descendre jusqu'à la troisième division européenne.
La Ligue Conférence, dans la douleur mais avec du caractère, le Racing Club de Strasbourg a validé son billet pour les quarts de finale aux dépens des Croates de Rijeka. Un partout, score final, troisième quart de finale européen de l'histoire du club alsacien.
En France encore, mais du côté de la sélection, les Bleus s'apprêtent à partir aux États-Unis pour une tournée.
Deux matchs prévu face au Brésil et la Colombie. Didier Deschamps, le sélectionneur, a donc communiqué sa liste des 26 joueurs convoqués. Dernier rassemblement avant la liste pour la Coupe du Monde. Pas de grande surprise, si ce n'est la présence du gardien du PSG, Lucas Chevalier, en difficulté en club, et le retour de Randal Kolo Muani, absent depuis juin dernier. Le capitaine Kylian Mbappé sera lui bien là, malgré sa récente blessure au genou. Et pour le sélectionneur, il n'y avait pas de doute, à partir du moment où l'intégrité du joueur n'est pas remise en question.
À partir du moment où il avait un protocole qui était mis en place, qui a été respecté, il était dans le timing. Le fait qu'il soit disponible pour le match contre City, où il est rentré 25 minutes, j'ai échanger régulièrement avec Kylian. Il n'y avait pas d'obligation, même si j'ai pu comprendre ou entendre qu'il soit présent et qu'il soit juste là pour faire du marketing. Certes, Kylian, c'est Kylian et il a un impact important. Ça fait partie de sa vie de footballeur, mais il y a surtout de son côté, c'était clair qu'il voulait être là en tant que joueur et donc d'être présent pour ces deux matchs. Après... J'en discuterai avec lui.
Didier Deschamps avec Cédric de Oliveira. Les Bleus affronteront le Brésil jeudi prochain à Boston. Et puis la Colombie le 29 mars à Washington.
Enfin du tennis, ça n'est pas si souvent. Iga Swiatek est sortie dès le premier tour du Masters 1000 de Miami.
Première fois depuis 2021 pour la numéro 3 mondiale éliminée du tournoi par sa compatriote polonaise Magda Linette. 1-6-7-5-6-3. Linette qui affrontera au prochain tour la Philippine Alexandra Ehala, 29e à la WTA.
Antoine Grenier pour les sports.
RFI Matin.
Aujourd'hui l'économie, bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Clotilde.
On se concentre ce matin sur un mot de plus en plus évoqué dans l'actualité économique et financière en raison du conflit au Moyen-Orient. C'est le mot stagflation, mot qui est un petit peu barbare. C'est une contraction de deux termes, la stagnation, l'inflation. Autrement dit, donc, une économie qui tourne au ralenti alors que les prix continuent d'augmenter. C'est une combinaison particulièrement difficile à gérer.
Oui, c'est le pire des scénarios pour une économie. Tout va mal en même temps. Pour comprendre, il faut repartir de la situation actuelle. Depuis pratiquement 3 semaines, les tensions au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et les attaques de sites pétroliers et gaziers font grimper les prix de l'énergie. Le pétrole dépasse à nouveau les 100 dollars le baril. Le prix du gaz s'envole et on le dit souvent et on va le répéter. Quand l'énergie devient plus chère, tout devient plus cher. Les entreprises paient plus pour fonctionner et elles répercutent ces coûts sur les consommateurs.
Donc les ménages dépensent plus pour leurs charges courantes et forcément moins pour le reste.
C'est exactement ça. Les entreprises de leur côté vont hésiter à investir car le climat économique est incertain et là, l'économie ralentit. Eh bien en fait, Clotilde, c'est ça, la stagflation. Vous combinez une inflation qui repart et une croissance qui ralentit. Alors attention, on n'y est pas encore. En Europe, la croissance reste légèrement positive. L'inflation a été largement maîtrisée ces derniers mois. De même aux États-Unis, même si le risque est là.
Oui, on l'imagine, vous l'expliquez, le choc énergétique pourrait changer la donne.
Voilà, alors pour le moment, on peut parler de slowflation. Une inflation qui est là, mais une croissance molle. Alors on peut dire que c'est une version atténuée de la stagflation, mais ce n'est pas une bonne chose pour autant, pour la simple et bonne raison que ça laisse présager des tourments pour les décideurs économiques. Car normalement, quand l'inflation augmente, les banques centrales montent leur taux d'intérêt, mais ça freine l'économie. À l'inverse, quand il y a déflation ou que l'inflation est timide et les taux d'intérêt sont baissés, pour soutenir donc l'économie et pousser à investir. Et paradoxalement, ça risque d'alimenter l'inflation précisément. Voilà pour le point technique. Mais le problème donc, Clotilde, quand il y a stagflation, c'est que ces outils classiques ne fonctionnent plus comme ils devraient. Chaque décision a un effet secondaire qui est négatif. C'est exactement le dilemme des grandes banques centrales en ce moment.
Et donc, comme souvent en économie, Stéphane, le mot d'ordre, c'est la prudence.
Oui, et tout demeure en la durée de la crise finalement. On le sait, si les tensions s'apaisent rapidement, les prix pourraient redescendre et le risque se dissiper. Mais voilà, le problème, c'est que si le conflit s'enlise, voire s'aggrave. Et justement, ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à ce type de situation. On peut penser au choc pétrolier des années 70 ou encore à la guerre en Ukraine, par exemple.
Et quelle réponse est-ce qu'on pourrait apporter à une situation de stagflation ?
Eh bien, c'est la grande question. Et il n'y a pas de solution miracle, car toutes les réponses comportent des dangers. Soutenir le pouvoir d'achat avec des subventions, par exemple, ça poussera la croissance. Mais l'inflation, elle va s'entretenir. La moins pire des solutions, finalement, c'est de cibler les aides aux ménages les plus fragiles et anticipé afin d'éviter des réactions excessives et donc dangereuses. Le risque de stagflation est donc réel, mais pour l'heure, Clotilde, les économies avancées restent en zone de risque et d'incertitude, ce qui dans tous les cas, c'est vrai, n'est jamais vraiment bon pour les affaires.
Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. Et pour prolonger ces explications, on parle effectivement désormais de plus en plus d'une éventuelle guerre du gaz, puisque le conflit pèse, on vient de l'expliquer, de plus en plus sur la production et la consommation mondiale des hydrocarbures. On a beaucoup évoqué le prix du baril de pétrole qui reste au-dessus des 100 dollars, mais la hausse du prix du gaz devient aussi inquiétante, plus 35% hier, après des frappes iraniennes contre le complexe de Ras Laffan au Qatar, le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. Bonjour Anne-Sophie Corbeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio sur RFI. Vous êtes chercheuse au Center on Global Energy Policy, le centre de politique de l'énergie pour traduire à l'Université de Columbia aux États-Unis. Depuis le début de cette guerre, on redoute une crise énergétique, déjà avec l'arrêt de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. On sait que c'est là que, par là que transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole et de gaz. Avec ces frappes iraniennes que je viens de mentionner, qui répondaient d'ailleurs à des frappes israéliennes dans la zone également, directement sur des infrastructures. Est-ce que cette fois-ci, ça y est, on peut dire qu'on n'évitera pas, qu'on n'échappera pas à une crise énergétique mondiale, a priori ?
Alors effectivement, il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois les flux via le détroit d'Ormuz et la destruction éventuelle d'infrastructures énergétiques. Donc, ce qu'on a vu en fait dans la nuit entre mercredi et jeudi, c'est une attaque répétée sur le site de Ras Laffan qui concentre à peu près un peu moins de 20% de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié. Et là où aussi où se trouvent des nouveaux sites en fait de gaz naturel liquéfié qui sont actuellement en construction. Donc attaquer en fait ce site, c'est vraiment extrêmement important. En même temps, je ne suis pas du tout surprise de la réaction de l'Iran, parce que attaquer South Pars, donc ce qu'a fait Israël mercredi, c'est vraiment attaquer le cœur de l'économie iranienne. On a 70% du gaz iranien qui vient de ce champ et l'économie iranienne dépend à peu près à 70% du gaz. Donc vous vous imaginez bien que la réaction de l'Iran était totalement prévisible. Mais effectivement, ce qu'on a annoncé hier, c'est le président de Qatar Energy qui l'a annoncé, c'est que dans toute cette installation, deux unités seraient en fait indisponibles pour une longue période, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans. Ça fait à peu près 17% de la capacité existante qui ne reviendra pas immédiatement.
Pour peut-être bien expliquer aux auditeurs, faire un petit point géographique, on va dire, si on reprend, donc on a le golfe Persique au centre, on va dire cette étendue d'eau, au nord l'Iran, donc, et au sud les monarchies du golfe, et en particulier le Qatar. Le gisement de gaz dont on parle, il est en fait partagé entre ces deux pays, c'est-à-dire donc le Qatar qui appelle cette zone South Pars, le Qatar qui l'appelle North Field. Vous le disiez, c'est la première réserve en fait, hein, mondiale de gaz.
C'est le plus grand champ, effectivement, tout à fait, et il est absolument crucial pour les deux. Alors je dirais même qu'il est encore plus crucial pour les Qataris parce que pour eux, c'est leur champ.
J'allais y venir justement, ils font partie des plus importants exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde.
C'est le second, juste après les États-Unis, et donc à peu près 20% du gaz naturel liquéfié au monde, sur les chiffres de 2025, vient du Qatar.
Vers quelle zone géographique est-ce qu'ils exportent le plus, les Qatariens? Autrement dit, qui risque d'être concerné en premier par cet arrêt de la production de gaz?
Alors, pratiquement 90% du gaz naturel liquéfié va vers l'Asie, notamment vers la Chine, vers l'Inde, vers le Japon, la Corée, Taïwan et aussi des pays d'Asie du Sud-Est comme le Pakistan et Bangladesh. Nous, en Europe, on avait à peu près 12 milliards de mètres cubes qui sont venus l'année dernière. Alors néanmoins, même si on n'est pas très exposé en termes de volume, puisque 12 milliards de mètres cubes sur une consommation totale de 340, ce n'est pas énorme. Il y a deux choses qui sont très importantes pour les auditeurs. La première, c'est que nos prix en fait en Europe sont des prix spot, donc qui reflètent en fait l'approvisionnement et la demande, et là on a un petit problème global en fait d'approvisionnement. Et numéro 2, tout simplement, on est à la fin de l'hiver, nos stocks sont relativement bas tout simplement parce qu'on a eu un hiver assez froid, normal, mais froid. Et donc, il va falloir en fait remplir ces stocks. Et ça, à mon avis, ça va être le drame de l'été.
Comment ça va se passer justement, Anne-Sophie Corbeau, par exemple, les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont se tourner vers les États-Unis, par exemple, premier exportateur de gaz? Est-ce qu'il va y avoir une guerre, entre guillemets, avec l'Asie pour essayer de s'accaparer le plus de gaz possible exporté dans le monde?
Malheureusement, il va y avoir une compétition entre les pays asiatiques qui seront prêts à payer plus pour en fait sécuriser cet approvisionnement et l'Europe. Regardons les choses en face. Un pays comme Taïwan, à peu près un tiers de son gaz, de son GNL, venait de la région. Ça va être quand même assez difficile pour eux de dire tout à coup on va diminuer notre demande de gaz d'un tiers. Alors certes, la plupart vont se tourner vers le charbon. D'ailleurs, en Europe, l'utilisation du charbon dans la génération d'électricité va augmenter. Elle augmente déjà, mais il est fort à parier qu'ils vont être sur les marchés pour en fait attirer des cargos. Alors vous me parliez des États-Unis, les États-Unis nous ont beaucoup aidés au cours des dernières années. Alors encore une fois, c'est très important de faire la distinction entre le gouvernement américain et d'ailleurs les autorités européennes et les compagnies. Ceux qui sont en charge, ceux qui amènent les cargos, ce sont les compagnies. Si au cours des dernières années, autant de cargos américains sont arrivés vers l'Europe, c'est pas par bonté d'âme, c'est tout simplement parce que les prix en Europe étaient très intéressants et qu'accessoirement, la distance entre les États-Unis et l'Europe est la plus courte.
Vous le dites, donc risque de surenchère effectivement si l'Asie elle cherche dans tous les cas à importer du gaz. Ça veut dire qu'il va y avoir une hausse des prix a priori très prévisible. Dans combien de temps, de quelle grandeur on va dire cette hausse de prix?
Alors c'est difficile à dire parce que par exemple dans quelques semaines en fait on a la réouverture du détroit d'Ormuz et que ceux qui possèdent les bateaux se disent c'est bon, maintenant la situation est sécurisée, nous pouvons refaire passer les bateaux, il va falloir aussi redémarrer les unités de liquéfaction restantes. Ça va prendre probablement plusieurs semaines parce que on va pas tout redémarrer redémarrer en même temps. Encore une fois, il y a plusieurs trains, des unités de liquéfaction qu'on va faire redémarrer une par une. Donc, ça va prendre du temps. Mais effectivement, ça serait le scénario positif. Si on est dans un conflit larvé, effectivement, on va avoir un énorme problème. Parce que ce qui manque, en fait, au marché global, c'est à peu près 110 milliards de mètres cubes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on revient 5 ans en arrière en termes d'approvisionnement global de gaz naturel liquéfié. Et pour nous, les Européens, le problème va être en fait de re-remplir nos stocks pour faire face à l'hiver prochain.
Donc si on manque de gaz, effectivement, vous commenciez à l'évoquer, on pourrait se tourner vers une surproduction de charbon. Pourquoi pas aussi, finalement, miser sur les énergies renouvelables ? J'ai vu là, ces chiffres du think tank Ember qui sont tombés justement ce matin dans le cadre de ce contexte, qui expliquent qu'un nombre record de capacités solaires et éoliennes ont été installées dans le monde en 2025. Ça pourrait représenter l'équivalent d'un septième environ de la production mondiale de gaz, le double de volume d'exportation de GNL du Qatar. Pourquoi tout simplement, est-ce qu'on n'en profite pas d'une certaine façon pour miser sur les énergies renouvelables ?
Ah mais on en profite de toute façon, depuis la crise avec l'Ukraine et la Russie, de toute façon.